Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat aujourd'hui avec le magazine Version Fémina que dirige Catherine Roig. Chère Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Chaque dernier dimanche du mois à 12h25, vous nous proposez la cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui nous avez-vous préparé?
Ah, une cerise tatouée. La liste des listes, vous verrez, c'est un teasing.
À tout à l'heure, 12h25. Mais c'est vous Stéphanie Villeneuve cette semaine.
Oui, bonjour. Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine II, soit le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc aujourd'hui?
Isabelle Carré, la comédienne.
À tout à l'heure, 12h15. Et avant la Madeleine, nous allons, figurez-vous, parler du lait, de sa production et de sa transformation en fromage. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes hier à Paris. L'envie pour nous de regarder de plus près comment on travaille ce produit phare de l'agriculture française, comment on passe du pis de la vache à la pâte à croûte molle, fleurie, lavée, pressée ou persillée, l'envie de comprendre aussi ce qui fait un bon lait et comment on fabrique de bons fromages. En quelque sorte, le lait, tout un fromage, c'est notre plat du jour aujourd'hui.
Coulommiers, Époisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin, de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux-de-Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse.
Inénarrable François Morel, les fromages. Et pour parler donc du lait et du fromage, zoom sur deux métiers de la filière lait aux deux extrémités de la chaîne. Tout d'abord un producteur de lait du Cantal. Bonjour à vous Michel Lacoste.
Bonjour.
Vous êtes chargé du dossier AOP Auvergne et vice-président de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait.
Je suis d'abord producteur de lait dans le Cantal.
C'est ce que j'ai dit dans l'ordre.
Sur la commune de La Capelle-l'Elfrais. Ma ferme se situe en moyenne montagne, en haut d'une colline, dans un paysage fait de prairies et de forêts.
Et à l'autre bout de la chaîne, une fromagère affineuse sur Paris, dont la réputation n'est plus à faire. Marianne Quentin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Alors tout d'abord, une question à tous les deux. Comment devient-on producteur de lait et fromagère? Par passion, par atavisme? Comment vous êtes tombés l'un et l'autre quand vous êtes né dans le lait, vous êtes né dans le fromage, Michel Lacoste?
Alors on a eu le temps de discuter un petit peu avant, on n'a pas du tout le même
avec
parcours.
Nous, hein.
Moi je suis fils de producteur de lait. Mes parents étaient producteurs de lait et c'était l'envie de reprendre l'exploitation familiale, l'envie de vivre au pays et puis de vivre de métier en lien avec le pays. Et le métier d'agriculteur, c'est l'avantage qu'on valorise des ressources de son pays.
Marianne Quentin.
Et moi, j'avais un papa qui était fromager affineur. À 20 ans, je me suis dit, je ne ferai jamais ce métier. J'ai fait ma petite crise et puis je suis retombée dans la marmite, mais par passion.
Ah, par passion, la passion revient toujours. On dit, Michel Lacoste, que la filière bovin-lait, c'est la filière la plus sinistrée de l'agriculture française, que c'est là que les agriculteurs s'en sortent le moins bien, que c'est là aussi que le nombre d'exploitations laitières a été divisé par deux en plusieurs années, en 15 ans. C'est vrai ce qu'on dit?
Alors, je connais pas tous les chiffres. Disons que la filière laitière était inscrite jusqu'à il y a quelques années dans une organisation administrative qu'on appelait les quotas laitiers. Cette organisation permettait d'avoir une stabilité de prix. Depuis la fin des quotas laitiers notamment, les prix sont beaucoup plus volatiles. On peut passer très très vite d'un prix élevé à un prix bas. Et donc ça entraîne effectivement des situations très compliquées au niveau des éleveurs. Et notamment depuis 2016. 2016 a été une année de crise. Et depuis, nous connaissons des années qui ne sont que moyennes. Donc il y a une situation aujourd'hui pour les producteurs de lait qui est quand même compliqué. Mais après, je suis pas sûr que ce soit la seule production agricole comme ça. Et puis le métier d'éleveur, c'est que chacun est patron quand même de sa ferme. Chacun gère sa ferme à sa façon, et donc il y a une diversité d'élevage, une diversité de façons de gérer, qui fait qu'il y a des situations très très différentes dans le monde de l'élevage, et il n'y a pas un seul type de producteur de lait.
Vous-même, Michel Lacoste, vous avez évolué avec le temps, puisque vous avez changé de stratégie après avoir été, disons, entre guillemets, productiviste jusqu'en 2006. Vous avez tourné votre regard et vos vaches vers de l'agriculture bio, avec une ferme aujourd'hui qui est dite AOP. Est-ce que ça veut dire que vous avez des critères particuliers? Qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est une ferme AOP aujourd'hui?
Alors, nous avons la chance d'être sur un territoire, effectivement, d'appellation d'origine protégée. Une appellation d'origine protégée, c'est un label de qualité qui est remis à un produit qui a un historique, une histoire. Donc, parmi tous les fromages qui étaient cités tout à l'heure dans la chanson qui était en ouverture de l'émission, mais ce sont toutes des appellations d'origine protégée. C'est-à-dire que c'est des fromages qui ont une histoire, qui sont historiques, qui ont un savoir-faire particulier. Et ce savoir-faire, il est rattaché à une région particulière. C'est-à-dire que c'est une population sur un petit territoire qui a partagé un savoir-faire. Ce savoir-faire donna un produit typique. Contrairement au bio, c'est pas un signe qui standardise les produits qui sont derrière. Au contraire, c'est un signe qui s'adapte à chacun des territoires. Et donc, derrière le Beaufort, qui est dans les Alpes, en haut des Alpages, le Cantal, en moyenne montagne, le Carmère de Normandie, au bord de la mer, il y a forcément des réalités très différentes.
Marianne Quentin.
Dites voir, Michel, votre lait est payé plus cher quand vous êtes dans une zone AOP?
Alors, aujourd'hui, il est payé plus cher. Historiquement, parce que Caroline est très bien renseignée, parce qu'effectivement, au niveau de notre exploitation, nous avons évolué en 2006 parce qu'on était sur une appellation qui était restée un peu en gare et puis qui, à partir de 2006, a décidé de se remettre en cause, et il était bien temps. Et ça nous a amené à codifier nos pratiques, à avoir des engagements en termes d'alimentation des animaux notamment.
Et de race de vache aussi.
Ah ben c'est la question. Bah c'est très bien, Marianne, c'est la question que vous voulez poser.
On y viendra.
Ça veut dire qu'on change de vache, effectivement, quand on passe en bio ou en AOP?
Pas obligatoirement, mais on peut. Et on se pose la question, mais par exemple, nous, sur notre territoire, c'est vrai que la race historique, c'est la race salaire. Mais aujourd'hui, cette race a connu une évolution qui fait qu'il n'y a quasiment plus de salaire traite. En tout cas, il y en a très très peu. Et donc, on se pose des questions pour voir comment la réintégrer dans les troupeaux. Mais c'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça d'un coup de baguette magique. Parce que, je vous disais tout à l'heure, j'ai repris derrière mon père. Mon père avait développé l'exploitation d'une certaine façon. Il y a un troupeau qu'on hérite, on fait naître les animaux, on est éleveur. Avant de faire du lait, on fait naître des animaux, on est attaché à notre troupeau et on décide pas de se...
On ne change pas comme ça nos vaches non plus. Alors, en l'occurrence, alors, je ne sais pas si je suis bien renseignée, j'espère encore, mais j'ai lu, Michel Lacoste, que vos vaches, c'était des vaches blanches et noires, des Primolstein, c'est vrai ça?
Il y a des Holstein.
Il n'y a pas que des Holstein.
Il n'y a pas que ça, il y a des Montbéliard. Et puis après, j'ai un troupeau salaire pour la viande.
Et la productrice de lait, donc la Montbéliard et la Primolstein, quelle différence y a-t-il? Quel type de lait ça donne entre l'une et l'autre? C'est pour ça que le lait des Primolstein est abondant, mais qu'il est assez pauvre par rapport à d'autres.
Mais il y a plusieurs choses qui vont faire la qualité du lait. La première chose qui compte, c'est l'alimentation des vaches. Et après, en fonction du produit qu'on recherche, on n'aura pas forcément la même alimentation, parce que le lait qui convient pour faire un fromage convient pas forcément pour faire un autre fromage, le lait qui convient pour faire du fromage convient pas forcément pour faire du beurre. Donc on va chercher des choses différentes. Nous, dans ce qui est dans le cadre du Cantal, nous nourrissons nos vaches à partir d'herbes. Et ce qu'on cherche, c'est une production qui soit vraiment liée à notre territoire. C'est-à-dire qu'on va pas intensifier de façon à s'assurer que le lait que nous produisons est bien le reflet de notre territoire.
Vous dites le plus important dès le départ, c'est ce qu'elles mangent. Que vos vaches mangent de l'herbe. Bon, j'ai lu aussi qu'elles mangeaient du tourteau de colza, par exemple.
Oui, mais des vaches qui ne mangent. Oui, parce que en fait, une vache, quand elle produit du lait, il faut qu'avec l'alimentation, on couvre ses besoins. Sinon, l'animal va dépérir. Donc, dans tous les territoires français, on va apporter d'autres aliments à la vache pour équilibrer sa ration, pour lui permettre, de pas puiser uniquement sur ses réserves et notamment en début de lactation, parce que la production de lait après la naissance du veau est plus importante, on va venir compléter l'alimentation avec des céréales. Dans mon cas, effectivement, du tourteau de colza. Alors, le tourteau de colza, c'est vous prenez une graine de colza. Avec une graine de colza, on fait de l'huile pour l'alimentation humaine. Il y a un coproduit qui reste, qui est un produit riche en protéines, qui va nous permettre d'équilibrer la ration. Elles en mangent 1 kilo ou 2 par jour. C'est tout à fait un produit végétal naturel qui n'a rien d'artificiel.
Alors, à l'autre bout de la chaîne, Marianne Quentin, est-ce que quand vous affinez vos fromages, et vous allez bien sûr nous expliquer ce que veut dire affiner un fromage tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que vous savez avec quel lait vous allez travailler pour vos fromages de vache? Restons sur le fromage de vache.
Un petit peu quand même. Oui, oui, je me tiens un petit peu au courant. Et surtout, je suis un peu d'accord avec Michel, si une bête est mal nourrie, elle donnera pas du bon lait. Et après, elle donnera pas du bon fromage. Et même avec l'affinage, on n'arrivera pas à faire un bon fromage. Alors que l'affinage peut rater un bon fromage, mais l'affinage peut aussi le rendre sublime. Et au départ, c'est vraiment la nourriture.
C'est l'alimentation de la vache.
Je préfère une vache montbéliarde à une Holstein. Même si Monsieur Lacoste dit que la Holstein, ça dépend ce qu'on lui donne à manger. Mais quand même, la montbéliarde a un taux protéique au niveau du lait qui est plus important. C'est un lait beaucoup plus gras et plus fromageable.
Plus hein? C'est pas forcément plus gras, c'est plus riche en protéines, la montbéliarde. Et c'est vrai que pour le fromage, c'est mieux. Mais après, quand on parle de troupeaux Holstein, il y a des troupeaux dans certaines exploitations qui, en quelque part, en termes de débouchés, sont pas forcément sur des fromages ou sur d'autres produits, qui vont chercher une production maximum. Nous, on a une production qui est à peine à la moyenne française. Donc, avec une même vache, avec une même race de vache, on peut faire des choses très différentes. Et puis, si je venais en vous disant, je suis éleveur, je fais naître mes animaux. Enfin, je veux dire, il y a des fois, c'est pas facile. Faut se lever au milieu de la nuit, faut les accompagner, on les élève, on les récupère tout petits, on les fait boire au biberon, on les suit, et que comme ça, du jour au lendemain, je suis prêt à me séparer de toutes mes vaches. Vous diriez, mais c'est bien drôle l'éleveur que j'ai en face de moi.
C'est vrai, on se dirait ça. Michel Lacoste, il y a quand même des différences entre les laits. Il y a des laits entiers, demi-écrémés, écrémés, sans lactose. Il y a du lait cru, il y a du lait fermenté, il y a du lait pasteurisé, il y a du lait thermisé, il y a du lait frais, il y a du lait de longue conservation, dit UHT. Comment on reconnaît un bon lait? Quel goût il doit avoir, le bon lait?
Alors, vous savez, dans tout ce que vous avez évoqué, il y a beaucoup de choses qui se passent après la ferme. Donc moi, je maîtrise pas tous ces éléments. Moi, je dirais, j'ai la chance d'être effectivement dans une appellation. Donc je sais que mon lait sert à faire du Cantal. Et je sais qu'entre moi qui produis le lait et puis Madame Quentin qui est affineur, il y a un fromager. Parce qu'il y a un secret. Autant l'affineur, il y a vraiment un art de l'affinage. Moi, je dirais qu'il y a une magie de fait de transformer de l'herbe en lait. Mais il y a aussi dans les fromagers, avec du lait, on va faire des pâtes persillées, des pâtes pressées, des pâtes molles. On va faire une diversité de produits qui est phénoménale. Et ça, c'est lié à des savoir-faire historiques. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un bon lait? Le lait, je sais qu'en fonction des saisons, il n'a pas le même goût, en fonction de ce que mangent les vaches. Quand les vaches vont sortir à l'herbe, le lait, il est plus fort. Il va avoir un goût plus fort. Et c'est un lait qui est réputé meilleur pour faire un fromage avec du goût. Après, tout dépend aussi le fromage qu'on recherche. Parce qu'il y a des gens qui aiment les fromages avec du goût et des personnes qui aiment des fromages plus neutres. Donc il y a une diversité aussi de consommateurs. Alors quel est le meilleur lait? Je sais pas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on toutes les semaines, notre lait... Il y a une analyse qui est faite qui va contrôler la qualité en termes de composition sur le plan sanitaire. Donc c'est quelque chose qui est suivi de très très près. Traire, c'est un acte exigeant de nous sur l'exploitation laitière. Traire, c'est un des actes les plus sensibles par rapport à notre métier.
Marianne Quentin, il y a aussi des différences de même nature hein, entre le fromage au lait cru, le fromage au lait pasteurisé. J'ai lu par exemple que le camembert et le crottin de chavignol, on le fait plutôt au lait cru. Le langre, il est plutôt au lait thermisé. Le minster ou le Saint-Nectaire, il est plutôt au lait pasteurisé. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces différences? Une façon de faire, c'est quoi?
Non mais déjà dans toutes les AOP... Il y a la possibilité de fabriquer soit au lait cru, soit au lait pasteurisé. Donc, le lait pasteurisé, qu'est-ce que c'est? Bon, il a été chauffé, on a éliminé toutes les bactéries, et puis on a réensemencé pour lui donner, alors on pourrait lui donner un goût de noisette, si on veut. Hein. Ça a été une protection, à une époque où, il fallait beaucoup de protection. Aujourd'hui, le lait cru est très, très protégé. Bon, privilégions le lait cru, parce que ça a beaucoup de... Les qualités organoleptiques, il y a beaucoup plus de saveur, il y a beaucoup plus de richesse, mais même au niveau de l'apport pour le corps, c'est nettement meilleur. Le lait cru représente que 10% de la production. Donc, 90% des gens mangent du lait pasteurisé.
Et de plus en plus.
Donc, il faut engager les gens à manger du lait cru. Mais c'est compliqué aussi, parce que le lait cru demande beaucoup plus de soins. et beaucoup plus de travail. Donc, c'est plus facile d'acheter dans les rayons des fromages au lait pasteurisé qui demandent moins de soins.
Alors, on a autour de la table quand même un producteur de lait dans le Cantal, mais qui fait pas de Cantal. Et on a une fromagère...
Pour le Cantal.
Qui fait quand même du lait pour le Cantal. Mais vous n'allez pas jusqu'à faire le fromage puisque vous ne faites pas de fromage.
Non, mais mon lait va dans une fromagerie qui fait du Cantal.
Quand même, vous nous rassurez puisque vous êtes dans le Cantal. Vous, Marianne Quentin, vous travaillez ou pas le Cantal? Ça affine
bien
le Cantal?
Bien sûr, mais je ne l'affine pas.
Eh ben, vous allez nous dire après pourquoi vous affinez certains fromages et d'autres pas. On est à l'heure de la Madeleine. Restez à l'écoute des bonnes choses.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés?
Eh bien, c'est tout nouveau. C'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût. Et en plus, elle se revisse.
Allez la Madeleine, avec vous aujourd'hui Stéphanie Villeneuve.
Oui Caroline, cette semaine c'est au tour d'Isabelle Carré, comédienne et auteure d'un premier roman chez Grasset, de nous confier sa Madeleine. Elle joue actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris dans une pièce intitulée La Dégustation. Alors avec un titre pareil, c'était l'occasion rêvée de lui demander le plat qui avait marqué son enfance.
C'est un plat, je pourrais pas dire ni positif ni négatif, tant il est particulier, mais beaucoup de gens vont écarquiller un peu les yeux quand je vais vous raconter. C'était la spécialité de mon papa, de mon père, quand on était petit, que ma mère partait en stage de yoga. Alors, il nous faisait la cuisine, et comme il savait pas faire la cuisine, il avait une spécialité qui était les tomates à la provençale.
Chanson des tomates. She's breaking my heart. Chanson de la lune, et t'as tous les légumes.
J'en parle dans mon livre Les Rêveurs avec émotion. C'est-à-dire que, voilà, on coupait les tomates en deux, on les mettait dans une poêle avec de l'huile d'olive, on les retournait d'un côté et de l'autre, on ajoutait, enfin, il ajoutait des œufs qu'il cassait dedans, des œufs au plat, et on saupoudrait d'herbe de Provence. Donc, les tomates étaient pas cuites, les œufs trop, et ça faisait un drôle de mélange entre trop cuit, cru, brûlé et froid. Voilà, les tomates étaient à la fois trop cuites sur le dessus et crues à l'intérieur, mais bon, en mélangeant tout, ça finissait par avoir sa saveur, enfin en tout cas une saveur que je reconnaîtrais entre mille.
Et comment ça se passait? Tout le monde participait? C'était un moment joyeux dans votre souvenir?
Non, on participait pas. Pourtant, je dis « on », mais on participait pas. Mais par contre, personne n'en laissait jamais dans son assiette. Alors ça, c'est un peu curieux. Peut-être parce que c'était toujours suivi de la crème Mont Blanc. La crème Mont Blanc à la vanille ou la crème Mont Blanc au chocolat. Et même à la pistache et au caramel. Mais toujours d'une crème Mont Blanc. Et peut-être qu'il y avait un deal, je me souviens plus très bien. On finit les œufs à la provençale. Les tomates à la provençale et on a le droit à la crème Mont Blanc. Ça devait être quelque chose comme ça.
Chanson des chemises.
Donc c'était le repas qu'on pouvait manger quasiment toute la semaine quand le stage de yoga de ma mère durait une semaine.
C'est facile, mais c'est dur.
Voilà la Madeleine ou l'anti-Madeleine, on sait comment l'appeler, d'Isabelle Carré, qui vous a fait sourire d'ailleurs, Marianne Quentin. J'ai l'impression que vous avez plutôt envie de manger vos fromages affinés que des tomates à la provençale d'Isabelle Carré, qui était son souvenir.
Oui, mais bon, je pense que pour elle, c'était un merveilleux souvenir.
Exactement,
moi, ouais, au bout de 8 jours, je ne sais pas si j'aurais tenu 8 jours avec les tomates d'œufs, mais bon.
Bon, alors parlons de vos fromages un peu. Déjà, combien de fromages vendez-vous? Votre boutique est au Champ de Mars, à Paris?
Oui, du Champ de Mars, oui.
Combien de fromages avez-vous? Est-ce que vous les avez comptés déjà? Est-ce que vous savez combien de fromages
Exactement,
vous vendez?
Exactement, je ne les ai pas comptés. Je suis
une fourchette, disons.
Entre 130 et 160, voilà.
Comment, à partir d'un même lait, on obtient tant de diversité de fromages. Je dis un même lait parce qu'on parle du lait de vache là aujourd'hui, mais vous avez bien d'autres laits. Vous avez des bien des laits de chèvre. Vous vendez du chèvre, bien sûr, brebis aussi.
C'est vrai que je suis un peu d'accord avec Monsieur Lacoste disait tout à l'heure qu'à partir du lait matière première, on fasse autant de fromages et autant de sortes et de process différents parce que vous avez des pâtes pressées cuites, des pâtes pressées non cuites, des pâtes molles à croûte fleurie, des pâtes molles à croûte lavée, des pâtes persillées. Enfin bon, c'est quand même absolument extraordinaire. Je me prends pas la tête tous les matins en rentrant dans ma boutique en disant c'est merveilleux, mais souvent j'y pense. Je me dis c'est quand même, et puis c'est ancestral. Je veux dire que le maroilles, par exemple, on dit que Henri IV allait l'acheter 4 sols pièce sur le quai des Grands Augustins. Vous voyez, donc je trouve ça quand même extraordinaire que au Congrès de Vienne, il s'ennuyait tellement que Talleyrand ait l'idée de créer un concours de fromage, et c'est de la bouche même de Metternich où on a dit que le Brie de Meaux était le roi des fromages et le prince des desserts. Enfin, tout ça fait vraiment partie de notre histoire. Alors déjà, je trouve que ça, c'est bluffant aussi. Alors, l'affinage...
Vous arrivez vraiment en bout de chaîne à la toute fin. La fabrication du fromage est déjà faite. C'est l'affinage, c'est le dernier, vraiment l'extrême bout de la chaîne du lait et du fromage.
Après nous, il y a le consommateur. Donc, on a super intérêt à ce que le fromage soit bon.
Mais ça veut dire que vous ne fabriquez pas les fromages, Marianne
Cantin. Non, on les amène à maturité. C'est ça, l'affinage, en fait. Alors, pas pour le Cantal, comme j'expliquais, parce que c'est des grosses pièces, ça demande des brossages, ça demande des conditions, il faudrait des caves, vous voyez, comme vous n'avez pas, mais il y a dans le Cantal.
Après que vous alliez dans le Cantal, en fait.
Voilà. Comme les comtés, c'est pareil, on va les choisir une fois l'an, on choisit nos meules parmi les fruitières, et on les met en garde. Hein, et ils nous les bichonnent comme des bébés, ils les brossent, enfin, ils nous les gardent. Mais nous, on affine toutes les pâtes molles, alors que ce soit les chèvres, on les reçoit frais de sel, et on a des caves où on les affine, les camemberts, on les termine aussi, les reblochons, enfin toutes ces pâtes-là, les époisses, on les affine avec du marcou de pédot, les langres, les monts d'or, on les termine aussi, enfin voilà.
C'est, en gros, on pourrait dire que c'est un art de modeler et de révéler le goût et la texture d'un fromage.
C'est-à-dire que, voilà, c'est amener le fromage à un point où on l'aura sublimé, quoi. Voilà.
Oui, moi, Michel Lacoste. On peut dire qu'un affineur, il va élever le fromage. Il va élever le fromage un peu comme on parle d'élever des vins. Et un bon affineur, un bon crémier, c'est quelqu'un qui va savoir choisir le fromage au bon moment, au meilleur stade, pour le consommer. Et ça, c'est quand même un savoir-faire aussi qui est pas donné à chacun. C'est un vrai savoir-faire.
Oui, mais c'est comme pour s'occuper des bêtes, c'est exactement la même chose à chacun.
Il faut l'œil
chacun
s'envoie
pour les bêtes.
Mais non, mais c'est des métiers, voilà, c'est des métiers
avec
où la main de l'homme
intervient. Transmission.
Et moi, je trouve que ça, c'est quand même ce qui fait partie de nos métiers, c'est que la main de l'homme intervient. Que ce soit son stade, à mon stade, c'est que l'humain est là.
Voilà. Entre vous deux, puisque donc, entre le producteur de lait et l'affineur de fromage, qui y a-t-il ? Est-ce que vous travaillez au milieu, il y a le fromager, le crémier,
la fabrication.
Donc vous travaillez toujours avec les mêmes, vous, Marianne Cantin, par exemple, vous avez un fromager, vous savez d'où vient le lait, etc.
En général, je sais pas toujours d'où vient le lait parce que comme Monsieur Lacoste, si vous voulez, il y a des camions qui viennent chercher le lait et puis après voilà. Je sais le producteur, je sais qui a fabriqué le fromage et celui qui a travaillé le fromage. Je connais, je suis allée. J'ai vu comment ça se fabriquait. Et là aussi, il faut que la main de l'homme intervienne.
Vous choisissez les fromages avec lesquels vous allez travailler
bien sûr.
Et vous, Michel Lacoste, une fois que votre lait est produit, vous savez quelles vont être les étapes. Mais, vont être les étapes ensuite.
Mais moi, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être dans une zone d'appellation. Donc moi, je sais que mon lait va à une fromagerie Cantal.
Que vous connaissez précisément.
C'est Fromagerie Occitane. C'est une fromagerie qui fait du Cantal exclusivement. Enfin, et mon lait fait exclusivement du Cantal. Ça, je le sais. Mais nombre de producteurs de lait ne savent pas toujours ce qu'est le devenir de leur lait.
Marianne Cantin, vous nous disiez que vous n'affiniez pas ni le Cantal, ni le Comté. Est-ce qu'il y a des fromages qu'on n'affine pas, qu'un affineur n'affine pas, qui ne s'affine pas, tout simplement ?
Bah, vous avez les chèvres tout frais, les faisselles, tout ça.
Oui, bon, d'accord, par... un chèvre frais.
Voilà.
D'accord.
Mais qu'est-ce que vous appelez? Eh ben, affiner, moi, ça, tous les fromages passent quand même par les caves. Hein, alors,
Et il se trouve que vous avez 5 caves d'affinage dans votre fromagerie?
Oui, bah, c'est des petites caves. Hein, vous attendez pas à voir des grandes caves comme dans le Comté ou dans le Cantal. Mais vous savez, les fromages, bon, quand vous mettez les fromages, c'est petit. Donc, non, j'ai 5 caves, oui, qui demandent des soins, où on les retourne régulièrement, on change les paillons sur lesquels ils sont. C'est notre métier.
Est-ce qu'il y a des récompenses pour déterminer quel est le meilleur fromager affineur?
Non, il n'y a pas.
Eh bien, faudrait peut-être...
Il y a le MOF. Qu'est-ce que je suis bête? Excusez-moi.
Le MOF, c'est le meilleur ouvrier de France. Oui.
Mais des récompenses pour dire celui-ci... Le MOF, c'est le savoir-faire. Voilà.
Alors, après, dans le cadre du Salon de l'agriculture...
Il y a des médailles.
Il y a des médailles qui sont décernées
pour les producteurs,
pour chacune des catégories. Alors qui vont aux producteurs, effectivement, c'est pas les crémiers.
Oui,
enfin, pour les producteurs ou les fromagers.
Oui, les fromagers, oui.
Celui qui fabrique le fromage. Voilà.
On n'en est pas encore aux restaurateurs ou aux chefs cuisiniers où là, les listes ne cessent de s'allonger. Restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau. N'est-ce pas, chère Catherine, puisque c'était lundi la première édition d'une nouvelle récompense qu'on appelle les World Restaurants Awards, ou en cours WRA. C'est un nouveau classement international des meilleurs restaurants, et j'ai un peu envie de vous demander encore une.
Oui, encore une liste, et heureusement, car on y a appris une chose fondamentale, à savoir qu'Alain Ducasse n'est pas tatoué.
Ah oui, d'accord.
Quel rapport avec la gastronomie, vous allez me dire? Mais aucun. Mais comme il a reçu, à l'occasion de ces WRA, le prix du meilleur chef non tatoué, qui serait, si j'ai bien compris, une façon de récompenser une valeur sûre, je vous le signale. Alors, de là à dire que les remises de prix dans la gastronomie frôlent avec le n'importe quoi, il y a un pas que je ne franchirai pas. Mais force est de constater que ces listes pullulent et qu'avec elles, ma perplexité croît et embellit. Ces classements sont créés et gérés par des sociétés de production, tout simplement, qui ont besoin de visibilité pour exister et de gagner de l'argent, d'où des shows magnifiques, animés à la façon des Oscars et sponsorisés par des marques alimentaires et des offices de tourisme, ce qui questionne parfois sur la surreprésentation de certaines villes ou de certains pays dans la sélection. Mais bon, passons.
Vous me disiez quand même, Catherine, que tout a commencé à Londres en 2002.
Oui, avec les fameux 50 Best, émanation du magazine britannique Restaurant. L'époque s'y prêtait. Dans le monde entier, en 2002, notamment au Japon, au Royaume-Uni, en Espagne, des chefs cuisiniers plus doués et plus créatifs les uns que les autres s'émancipaient de la grande cuisine française, la référence gastronomique, qui commençait à trembler sur son piédestal. Avec leur show à l'américaine, et en déclarant à l'époque que le meilleur chef du monde était un Espagnol, à savoir Ferran Adrià de Feu El Bulli, les 50 Best ont créé une onde de choc qui a fait rentrer de plein pied la gastronomie dans la modernité et la mondialisation, jugée plutôt. Un magazine anglais qui récompense un chef espagnol dans une cérémonie financée par une marque d'eau minérale italienne, ouf, n'empêche que c'était une idée marketing géniale, et bien que controversée, elle crée chaque année l'événement depuis. Tant et si bien que ça a donné des idées à deux concurrents récents, mais sérieux. Le premier, c'est La Liste, avec un L majuscule, créé en 2016, qui s'autoproclame la meilleure sélection gastronomique au monde et qui réalise un classement de 1000 restaurants en compilant les notes des guides du monde entier et les avis en ligne. Et puis les petits derniers, ce sont les World Restaurants Awards, dont vous parliez tout à l'heure, qui ont été créés cette année par des anciens, je vous le donne en 1000, des 50 Best.
Bon, bah alors au final, Catherine, on a forcément une chance de savoir quel est le meilleur restaurant de la planète.
Ah non, détrompez-vous Caroline, car le plus drôle, c'est que tous ces classements n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les premiers des uns peuvent être les derniers des autres ou carrément absents des listes concurrentes. C'est le cas de Wolfgat en Afrique du Sud, qui vient de remporter le World Restaurant Award du restaurant de l'année et qui ne figure pas dans les 50 premiers des autres classements. Quant au numéro 1 du 50 Best, le grand Massimo Bottura de l'Osteria Francescana à Modène, il n'est que 34e dans la liste. Enfin, notre Alain Passard National, le chef de l'Herpège à Paris, est certes 8e dans le 50 Best et 6e dans la liste, mais il n'est récompensé que du meilleur compte Instagram par les World Restaurants Awards. Bref, pour vous aider à trouver la table de vos rêves dans cette internationale de la gastronomie, il faut que je vous dresse la liste des listes. Car elles ont chacune leur style. Je dirais pour faire simple que les 50 Best ont transformé les chefs en rockstars. Que la liste est dans un registre plus classique, avec Guy Savoy comme chef numéro 1 dans le monde. Et que les World Restaurants Awards déboulent là-dedans comme des chiens dans un jeu de quilles avec des prix complètement fantaisistes. Alors, l'intérêt de tout ça, chacun se fera son avis, mais disons que ça fait parler de la gastronomie et c'est tant mieux. Puis en plus, ça nous apprend que Ducasse et Passard sont deux immenses chefs. Comment ça, vous le saviez déjà?
Merci beaucoup Catherine Roig. Et merci à Michel Lacoste et à vous Marianne Quentin d'être venus dans Les Bonnes Choses aujourd'hui. Les Bonnes Choses qui se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan à la réalisation cette semaine, Rafik Zénine et notre technicienne du jour Emmanuel Morse-Duncan vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Witzmann.